Bonsoir Vinciane Audebeau.
Bonsoir Kathleen.
Anne Perry nous enchante avec ses romans sur les bas-fonds du Londres victorien, mais comme nous sommes chauvines, nous sommes dit que finalement Paris n'avait sans doute rien à envier sur le plan des criminels.
Voilà, tout à fait.
Donc vous êtes partie à leur recherche.
Voilà, et j'ai suivi pour cela une guide historienne qui propose de découvrir Paris à travers son histoire criminelle et ses lieux assassins. Alors depuis 5 ans, Dorothée emmène qui veut la suivre dans la capitale, sur l'île de la Cité, c'est le Paris policier, la jeunesse de la justice. Dans le quartier latin, c'est la science qui se met au service du crime. Et moi, j'ai suivi l'enquête numéro 2 dans le quartier assassin Châtelet-Les-Halles. Alors depuis le 12e siècle, c'est la rive du commerce, un quartier qui est aménagé par le roi en 1131, qui souhaite agrandir la ville et délocaliser les marchés du centre de la capitale. Et à l'ombre de Notre-Dame-des-Halles, qui est plus connue sous le nom de Saint-Eustache, c'est le plus grand marché d'Europe, là où se sont organisés le banditisme et le syndicat du crime. Nous étions donc au rendez-vous, c'était la semaine dernière.
Alors là, on est dans le quartier des Halles. Émile Zola évoque le ventre de Paris. Beaucoup de monde gravitait dans cet endroit puisque c'était le plus grand marché. On est dans le troisième quartier qui va s'urbaniser à Paris, à compter de 1137, puisque le roi Louis VI le Gros décide d'aménager un marché ici, sur la plaine des Champeaux. Embauche, débauche, hein, vous régnez un petit peu dans ce quartier. Alors on va où ? Alors là, on va aller rue Courtalon. Voilà, donc là on va s'arrêter ici. La Comtesse Sanglante. Le fait divers se déroule en 1684. Alors cette place est déjà là. Hein, alors.
La place Sainte-Opportune.
La place Sainte-Opportune avec la toute petite rue Courtalon. Donc en 1684, il est rapporté à la lieutenance de police des disparitions. 26 jeunes hommes ont disparu. Alors tous plus ou moins de bonne famille. Et Lecoq est chargé de l'enquête. Il se dit, bon bah, je vais prendre un appât qu'il habille avec des signes ostentatoires de richesse, qu'il fait suivre. Et un jour, cet appât, au bout de quelques semaines, est intercepté par une vieille dame qui lui dit qu'elle serait ravie de lui présenter sa jeune maîtresse, qui est une comtesse éplorée, orpheline, richissime. Elle va lui fixer rendez-vous à 21h. Donc ils arrivent ici, rue Courtalon. L'appât se retrouve seul dans l'appartement et découvre des têtes coupées dans le formol. Et les sergents montent dans l'appartement pour intercepter effectivement cette fausse comtesse qui se faisait appeler Madame Jaribowska. L'idée principale de la comtesse, c'était récupérer de l'argent, puisqu'elle revendait les corps à de jeunes étudiants en médecine et les têtes à des savants allemands qui commençaient tout doucement à étudier ce que l'on a appelé la phrénologie. Et donc cette comtesse sanglante, après ses 26 têtes...
Finira par donner la sienne.
Finira par donner la sienne, voilà, exactement. Alors, je vous emmène ailleurs.
Il va peut-être se mettre à pleuvoir.
Ouais.
Alors, on est près de la station de métro Châtelet.
Alors, là, justement, ce lieu important, le Châtelet, est une prison hein, qui, jusqu'à Napoléon, va être le lieu vraiment de la police. Hein. C'est la PJ, c'est le 36 quai des Orfèvres d'avant.
Et il y avait une prison avant ici.
Alors il y avait une prison à cet endroit et c'était vraiment la lieutenance de police de Paris pilotée par Nicolas de la Reynie, premier lieutenant de police nommé par Colbert et Louis XIV.
Qu'est-ce qui vous a motivé dans le fait de créer ces visites ? Paris assassin, Paris criminel.
Ce qui m'a motivée, c'est la narration du fait divers, parce que le fait divers peut tout intégrer. Des notions d'histoire, hein, c'est aussi une évocation de l'histoire policière et judiciaire, c'est de la sociologie. Paris est certainement l'une des plus belles villes du monde, c'est un décor tout trouvé. Hein, Paris n'est pas que l'idée du grand romantisme, elle a aussi un passé sanguinaire, des pavés qui sont aujourd'hui, que les gens ne connaissent pas. Je reste dans le concret, je reste dans l'histoire, J'avoue qu'il n'y a que ça qui me passionne, en fait.
Mais on va voir que l'histoire et la littérature, parfois, ça se mélange.
Effectivement, on va se diriger rue Quincampoix, dans l'une des plus vieilles rues de Paris, où le personnage d'Arsène Lupin n'est pas loin. C'est par là-bas.
On va jusqu'au combien ?
On va jusqu'au 76. Nous sommes le 6 octobre 1901. Monsieur Bourdin rentre de la campagne à 22h, constate rapidement les dégâts de cambriolage laissés par Bonnefoy et Jacob. La bande des travailleurs de la nuit est passée ici. C'est ce que l'on a appelé le coup du parapluie.
Ils ont percé un trou en haut.
Voilà, ils ont percé un trou et pour retenir le bruit des gravats, ils ont mis un parapluie hein, pour éviter que les voisins ne soient alertés. Voilà. Cette bande des travailleurs de la nuit, elle est connue. Chaque cambriolage, à chaque fois, on laisse un petit mot, on laisse une signature. L'idée de ces travailleurs de la nuit, c'est de voler uniquement les gens qui sont jugés profession inutile. Alors voilà, des banquiers, notamment des bijoutiers, des magistrats, il va sans dire, des policiers. On ne vole pas un médecin, on ne vole pas quelqu'un qui vide sa plume. Et les anecdotes l'ont démontré, puisque Alexandre Marius-Jacob a pénétré, en fin de compte, la villa un jour de Pierre Loti, s'en est aperçu. Il va laisser 10 francs et un petit mot en disant « Je suis désolé, je ne vole pas les gens qui vivent de leur plume. » Un pourcentage important est laissé à des gens dans le besoin. Il a un certain charisme, donc même les policiers sont blousés. Quand on reprend Arsène Lupin se déguise beaucoup. Il reverse aussi, on le voit, reverser ou déposer de l'argent. Il signe tous ses cambriolages. Maurice Leblanc s'en inspire effectivement complètement. Mais la famille s'en est toujours défendue. Et pourtant, il était présent, dit-on, au moment du procès.
C'est pas un peu glauque de faire des visites sur les crimes ?
En aucun cas, l'idée est de faire l'apologie du crime et du criminel. Hein. C'est une originalité pour visiter Paris. Un alibi, en tout cas un alibi pour visiter Paris autrement. Voilà, c'est ça.
Vinciane, c'est tout à fait délicieux de se promener dans les pas des criminels. Comment est-ce qu'on peut faire pour marcher sur vos traces ?
Alors, on peut aller sur un site internet, donc c'est lesvisitesdethéo.com. Trois visites donc sur l'île de la Cité, dans le quartier latin et dans le quartier du Châtelet. Et la prochaine déambulation assassine, c'est samedi prochain et ensuite le 3 juin.